Je viens d'écouter l'émission de Daniel et je le remercie de cette émission. C'était vraiment formidable le jugement de Sarkozy, mais cet homme fait un peu peur et il faut vraiment qu'il y ait beaucoup d'émissions comme ça parce que on n'est pas sorti de l'auberge avec lui. Merci, au revoir.
Salut la fine équipe, c'est Philippe Dangard. Quel régal, mais quel régal. On se croirait au tribunal des flagrants délires. Ah, ça rappelle des très très bons souvenirs. C'est merveilleux. Mais pourquoi le tribunal des flagrants délires n'existe pas, n'existe plus tous les mois? Allez, ciao, bye.
Bonjour Daniel dans le Gers. Salut Daniel et merci pour tes émissions. J'ai bien rigolé avec l'histoire de Nicolas Sarkozy. Mais j'espère simplement qu'un jour on n'aura pas lieu de pleurer à cause de lui. Ce type me fait penser à une espèce de clone que j'appellerais un Franco en blue jean ou quelque chose dans le style. C'est pas parce qu'on met des blue jeans qu'on a une grande gueule et qu'on parle populaire qu'on n'est pas dangereux. Au contraire. Eh oui, voilà, je pense que c'est exactement ça. Le petit clone de Franco en blue jean. Salut et bonne continuation et merci pour tes émissions.
Jean-Claude de Condon à Le Gers. Alors là, je dis bravo, monsieur Vermet. On vient de passer deux jours extraordinaires. C'est fabuleux. Par contre, je suis très inquiet. Très inquiet pour vous, pour votre équipe, parce que vous allez faire partie de ces gens qui allaient pointer à la NPE, parce que je pense pas que monsieur Sarkozy vous pardonne. C'est un humour qui, je pense, ne comprend pas. Même si on parle de lui, hein, je suis un petit peu inquiet, mais ce n'est pas grave. On aura passé un bon moment, et puis on prendra la fourche, on prendra l'info, et puis on fera la révolution. Merci encore, merci beaucoup.
Oui, bonjour à toute l'équipe, bonjour Daniel. Bon, ben, je téléphone au sujet du procès de Sarko hier, pas mal. Hein. Pas mal, mais alors il méritait une peine quand même un peu plus sévère. Moi, je l'aurais quand même paxé avec, Hollande, et puis je n'aurais pas donné le SMIC, hein, parce que c'est trop le SMIC. La France vit au-dessus de ses moyens. Alors je lui aurais donné le RMI, hein, le RMI, puis comme tout le monde, il aurait été pointé aux ACDIC, et puis comme c'est pas une feignasse, il aurait sûrement trouvé du boulot, parce que c'est un zéblon, il court partout. Et puis l'autre, il aurait fait le ménage, hein, il aurait fait la popote à la maison, il aurait tiré la ficelle, quoi, hein, comme nous on fait tous, les pauvres.
Oui, bonjour Daniel et toute l'équipe. Bravo pour le procès de Nicolas, c'était très drôle et très réaliste. Par contre, il me semble que vous avez oublié un chef d'accusation majeur, ce sont les liaisons de M. Sarkozy avec l'église de Scientologie. La directrice de l'église de Scientologie en France a admis publiquement que depuis que Nicolas est au ministre de l'Intérieur, il y a beaucoup plus de facilité à rentrer dans les administrations. Et également, la venue de Tom Cruise en France, accueilli par M. Sarkozy, Tom Cruise étant le porte-parole de l'église scientologue américaine. Il me semble que là, il y avait matière à s'interroger. Donc, merci de le faire savoir. C'était Denis de Béziers. Au revoir.
Voilà, je vous écoute très régulièrement. Et c'était simplement pour vous dire que votre émission est sabotée médiatiquement, en ce sens que l'écoute est, comment dirais-je, interrompue. Voilà, c'était simplement pour vous en informer de vive voix. Et voilà, à bientôt. Merci, au revoir.
Mais non, il n'y a pas eu de sabotage, simplement la diffusion hier de l'émission, je crois de l'émission précédente aussi, celle de l'Odéon, ont été perturbées à cause des orages à travers la France et les relais de diffusion de Radio France ont été perturbés. Voilà pourquoi un certain nombre d'entre vous, auditeurs et auditrices, ont eu une réception hachée de l'émission d'hier, qui était la deuxième partie, effectivement, du procès de Nicolas Sarkozy. Voilà, on s'excuse, mais on n'y pouvait rien, donc on refera une rediffusion de cette émission à l'occasion. Aujourd'hui, on va aller se balader vers Grenoble. Connaissez-vous Grenoble? Grenoble, oui, magnifique. Et puis, Grenoble, un pôle. Un pôle, un genre de Silicon Valley, polygone scientifique. On va aller dans une France qui va nous changer un petit peu avec François Ruffin ou avec les autres. On va un petit peu là où, voilà, où, dans des endroits un petit peu... On fait des sujets de société. Là, au contraire, on va sur la France qui gagne, sur la France qui va de l'avant, la France technologique, et on va voir que ça marche pas tellement, et que l'inquiétude y est très grande. On est allé là-bas suite à un courrier que nous a envoyé, nous adresser à un auditeur il y a quelques jours, c'est jusqu'à 18h. Mais auparavant, d'autres messages sur le répondeur de la base J'y suis, donc vous connaissez le numéro par cœur, 01 56 40 37 37.
Donc c'était pour annoncer un événement qui a lieu samedi 25 juin et dimanche 26 juin, donc ce week-end, à Montpellier, sur le quartier du Petit Bar qui résiste. Donc pour aller vite fait, pendant plusieurs années, le quartier du Petit Bar a été laissé à l'abandon et ses habitants spoliés, ce qui a abouti à sa dégradation il y a un an, l'incendie qui a entraîné la mort d'un locataire. Depuis, les habitants de cette cité ont décidé de se regrouper et de s'organiser pour faire respecter leurs droits et être logés et à vivre dignement au Petit Bar, comme dans tous les autres quartiers. La solidarité et l'action collective sont les seules armes dont nous disposons face aux politiques discriminatoires et clientélistes. Donc venez nombreux, donc il y a une ferme pédagogique à partir de 10h samedi, il y a un forum 14h-18h, à 20h il y a un concert gratuit. Le dimanche 26 de 10h à 13h30, il y a un forum avec les sans-papiers, les migrants dans l'agriculture. Et à 14h30, il y a un forum organisation autonome des quartiers. Voilà quoi, avec la projection de plusieurs films le samedi en continu. À 19h, il y a un repas de quartier. À 20h, il y a un concert gratuit avec Secret Connexion, Atlas, Oxford Université, Jamel Mektoub. Je vous remercie de faire passer le message et je vous salue tous et à bientôt. Au revoir.
Bonjour, là-bas si j'y suis, c'est Jean-Claude Amara, porte-parole de l'association Droit Devant, pour vous signaler que nous fêterons les 10 ans de l'association Droit Devant le samedi 25 juin de 12h à 24h au Théâtre de Verre, 25-27 rue de l'Échiquier. Paris 10e, métro Strasbourg-Saint-Denis, avec plusieurs artistes bien entendu qui seront présents, comme la compagnie Joli Môme, comme la compagnie Mister Bouffe, comme les Tréteaux de la Colère, comme le Théâtre Aleph, Christian Pacou, Gustave Parking et tant d'autres, comme Albert Jacquard, Monseigneur Jacques Gaillot, co-président de l'association. Nous y évoquerons bien entendu en musique, en chanson, en poésie, en esthétique, avec du bruit, des chansons, de la couleur. Ces 10 ans passés dans la lutte auprès des sans-logis, des sans-papiers, des sans-emploi, des gens qui sont aujourd'hui ravalés aux marges de la citoyenneté. Et nous ferons bien entendu aussi un hommage à Léon Schwarzenberg qui fut un de nos coprésidents et qui a disparu par l'intermédiaire de plusieurs témoignages, celui de Marina Vladi, de Guy Bedos, de Ariane Mnouchkin et d'autres personnes qui seront bien entendu présentes. Il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de la musique, de la fraternité, de la communication. Venez nombreux ce samedi 25 de 12h à 24h. Merci.
Nous, à Crawl, on nous dit, vous inquiétez pas, Crawl ne devrait pas être impacté, mais peut-être que sur les autres sites, on leur dit ça aussi, quoi. Donc on sait pas, et même si Crawl n'est pas impacté cette fois-ci, ce sera la prochaine fois.
En ce qui nous concerne, nous, hein, pour Crawl 2, on devrait pas trop être impacté.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis, avec Guy Ventil, les impactés.
Flight number 2, arriving from...
Retour en France avec la bonne nouvelle du jour pour l'emploi, la région Rhône-Alpes et à ne pas négliger pour un certain prestige. Trois géants de l'informatique, Motorola, Philips et ST Microélectronique, choisissent le site de Crawl dans l'Isère pour installer un pôle commun de recherche, une installation qui devrait générer à terme quelques 6000 emplois en France, dont 1500 sur place. Mais l'alliance des trois grands est aussi sans précédent. Elle devrait notamment permettre d'accélérer la recherche sur les puces nouvelle génération. Explication du directeur de recherche chez ST Microélectronique, Joël Monnier, interrogé par Marion Bernard.
Ça va nous permettre de faire ce qu'on appelle les nanotechnologiques, plus petits, moins chers, plus complexes.
13 avril 2002.
Donc, il y a une succession d'étapes et à chaque fois qu'on va à une nouvelle technologie, ça coûte plus cher, on doit aller plus vite et donc il y a une taille critique. On aura 1000 ingénieurs qui font de la technologie, accompagnés avec des techniciens, des gens qui font du support, de la logistique. Donc c'est un pôle considérable. Et je répète, il n'y en aura que 2 ou 3 dans le monde comme cela. C'est l'Amérique qui s'allie avec l'Europe pour rivaliser avec l'Asie.
On parle d'un investissement d'1,5 milliard d'euros en 3 ans, le double d'ici à 2007.
Vous êtes un maillon faible ? Au revoir. Avec 2 voix contre vous, Antoine. Vous êtes un maillon faible ? Au revoir. Avec 3 voix contre vous, Daniel. Vous êtes un maillon faible ? Au revoir. Pierre, vous êtes un maillon faible ? Au revoir.
Au pouvoir public, et ça c'est le deuxième sens de notre action, c'est que si vous avez l'industrie stratégique,
le maillon faible, ça pourrait s'appeler le maillon faible ou bien les impactés. Vous avez compris que nous allons à Grenoble parce que je vous l'ai dit et on va dans cette entreprise magnifique, formidable, d'avant-garde qui s'appelle ST Microélectronique. Et là, on avait effectivement le 13 avril de 2002 un lancement de cette entreprise formidable, la fierté, la vitrine. Et ça va nous changer un petit peu du plombier polonais, ce plombier polonais victime du communisme, rescapé du goulag, avec ses enfants blonds et catholiques évidemment, et leurs grands yeux confiants levés vers le drapeau européen et auquel vous avez dit non. Français, xénophobe, replié sur vous-même. Là, c'est d'autres formes de xénophobie dont il va être question dans cette heure. C'est une certaine xénophobie envers des Asiatiques, envers des ingénieurs indiens ou chinois. Peut-être un sentiment que finiraient par éprouver les salariés de cette prestigieuse entreprise ST Micro. Microélectronique à Grenoble. Qu'est-ce qu'on fait là ? On est là suite à un mail reçu à là-bas, si j'y suis, daniel.mermet@radiofrance.com, où un auditeur, Richard, nous dit, nous met au courant de ce qui se passe dans sa petite entreprise. Et il nous parle des puces. Les puces, qu'est-ce que c'est que les puces d'abord ? Non pas les puces qui traînent à Saint-Ouen ou dans les lattes des planchers, mais évidemment, vous avez compris, les puces électroniques. Et c'est cela qu'on fabrique et cela qu'on recherche. Il y a un pôle de recherche à Grenoble, il y a quelques kilomètres de là, à Crawl, il y a la fabrication de ces puces. Or, cette entreprise était la grande entreprise vitrine, le prestige, ce qui montrait que si effectivement, hélas, il y avait à regretter un certain nombre de délocalisations dues évidemment à la conjoncture en ce qui concerne ces technologies avancées qui supposent des cadres diplômés, des chercheurs très pointus, là au moins il n'y avait évidemment aucune espèce de risque. Or, eh bien, il y a quelque temps, très peu de temps, annonce a été faite de prochains licenciements. 3000 emplois vont être supprimés. On dit plus, on dit moins. En tous les cas, le climat a changé dans cette entreprise, alors que on est en présence, encore une fois, de salariés qui sont plutôt gâtés, pour qui tout va bien et qui profitent plutôt bien de ce système. Tout le monde désormais est concerné. L'insécurité sociale gagne tous les couches de la société. C'est notre sujet du jour, les impactés.
dans un monde de fous, modernisation à outrance. Profite bingo des ponts de ceux qui survivent dans la souffrance. Si t'es pas dans le coup, t'es cool et fils. Comme un con qui confondrait chiffre d'affaires et bénéfice. Un mannequin trop épais de cuisse, ça colle pas à l'époque, c'est pas le format. Comme une tête trop bronzée pour entrer en boîte. Ouais, ici c'est, change ta face ou bien danse pas. Dans ce cas, continue de manger le bitume, mais surtout pense pas. C'est l'an 2000 et son flot de conneries. Des mecs qui tombent pour le kill pendant qu'en haut, ça gaulerie sec sur notre compte. Frangin, ouais, le bug, ici on l'attend les tous. En disant que si ça pète le 1er janvier, peut-être qu'on les prendrait tous. Malheureusement, c'était une arnaque. Un truc de plus pour qu'ils puissent faire de la thune par plaque. J'aurais tort d'hésiter. Faut qu'il y en ait qui crèvent de faim et d'autres d'obésité. Aujourd'hui, pour c'est vrai que c'est mal barré. Qu'à l'avenir, on risque de pas se marrer. Que la planète est aux mains de tout un tas de tarés. Plus ça tourne et moins c'est carré. Plus les années passent, plus ça fait, plus je suis égaré. Tu sais que ça c'est mal barré. Qu'à l'avenir, on risque de pas se marrer. Que la planète est aux mains de tout un tas de tarés. Plus ça tourne et moins c'est carré. Plus les années passent, plus ça fait, plus je suis égaré. Tu sais. Après quoi tout le monde court, moi je me le demande. En attendant le peuple crie au secours et se demande qui tient les commandes, qui tient les manettes. En sous-marin en fait c'est pas net tout. Plutôt ça l'est trop, le diable a pris le contrôle de la planète. Ça fume des cailloux sur des canettes. Ça mène des vitrailles où tout le monde se lève pour la maille. Faut bien reconnaître que ça va pas plus loin et que ça demande pas plus de soins. Une banlieue qui meurt, on s'en fout du moment que ça pue de loin. Et ouais c'est l'un de mille cousins et son style de vie est cousu. Ce qui fait que du coup tu te mets à regretter les coutumes. Le temps où on rêvait tous que le progrès serve les hommes juste pour qu'on vive mieux et non pas pour qu'on vive vieux, un peu plus libre. Seulement c'est mal barré, en haut des tatarés. Rêve de nous foutre des puces dans le cul, c'est ça le pari, hein. Je parie même, tout ça c'est déjà prêt. Et dans les hautes sphères, tous les paris sont déjà pris.
Toute la gamme des moyens d'action est mise en œuvre au plan national pour améliorer l'environnement des entreprises. La formation tout au long de la vie, que les partenaires sociaux s'attachent à faire progresser rapidement.
Automne 2002.
Les baisses d'impôts et de charges, l'assouplissement des 35 heures, la simplification des procédures et des formalités, la réforme de l'État. La France doit préparer le retour de la croissance en libérant toutes ses énergies.
Pour les salariés de ST Microelectronics, ils ne savent toujours pas quels sites vont être touchés par les 3000 suppressions d'emplois annoncées par leur groupe pour l'Europe et les États-Unis le 16 mai dernier.
2005.
Les salariés des usines de France et d'Italie étaient invités à débrayer pour protester contre ce plan. Ce qui ne passe pas, c'est que l'entreprise a bénéficié d'importantes subventions de la part des pouvoirs publics, alors que la moitié des réductions d'emplois sont en fait des délocalisations vers l'Asie.
Il faut que ces subventions servent au développement de l'emploi et pas simplement à des profits boursiers à la sortie.
À Grenoble, Écrolles, ST Micro emploie près de 5000 personnes, 250 d'entre elles ont manifesté cet après-midi.
Voilà, tout est dit. Profit boursier, importante subvention, délocalisation vers l'Asie, banal. Très, très, très banal. Tout ça est bien banal. C'était le mot le plus employé par cet auditeur qui, vous l'avez compris, est salarié de cette entreprise et qui nous a alerté. Effectivement, le 16 mai, l'entreprise ST Microelectronics a annoncé des mesures destinées à restaurer sa rentabilité. Mesures qui se traduiront par une réduction cumulée de ses effectifs de 3000 personnes hors Asie, puisque c'est en Asie que des nouveaux postes vont être créés. 3000 personnes d'ici à la mi-mai. ST Microelectronics, c'est un groupe franco-italien de semi-conducteurs qui a enregistré une perte nette de 31 millions de dollars au premier trimestre de cette année, mais c'est une entreprise qui par ailleurs est une entreprise puissante qui se porte bien. Et immédiatement après l'annonce de ces licenciements, de ce projet de restructuration, pour employer les euphémismes couramment, et bien évidemment aussitôt la valeur boursière de l'entreprise à remonter. On sait maintenant parfaitement le fonctionnement de tout cela. On est avec Guy Ventil et l'auditeur Richard qui nous avait alerté et qui nous présente le problème et le site.
Alors, le panorama de la vallée de Grenoble. Voilà où on est venu suite à un message que tu nous as laissé.
Oui.
Comment on te présente ?
J'aurais tendance en fait à dire un ingénieur qui travaille dans une société de high-tech et puis un ingénieur syndicaliste.
Alors, ST Microelectronics, en fait, on est implanté là, donc entre le Vercors et puis la Chartreuse. C'est un paysage magnifique, en fait, comme tu peux le voir.
Et ici, c'est la Silicon Valley grenobloise.
Exactement, tout à fait. En fait, pour le polygone scientifique, donc qui est le deuxième centre donc local de ST Microelectronics, c'est ce qu'on appelle en fait un centre fabless, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de production chez nous, il n'y a que de l'étude et de la conception. Donc là,
ici, c'est les cerveaux.
Principalement, c'est-à-dire qu'en fait, la très grande majorité des gens qui travaillent ici sont des ingénieurs. Donc, ce sont des gens qui sont formés entre Bac plus 5 et Bac plus 8. C'est-à-dire que chez nous, on va trouver des gens qui conçoivent les puces qui ensuite sont envoyées à Crolles pour être fabriquées. C'est une usine parmi les plus modernes du monde.
Alors, ST Microelectronics, moi j'avoue, cette boîte, j'ai jamais entendu parler.
Oui, comme beaucoup.
Ces sociétés-là, qui est un des leaders mondiaux.
Ah oui, absolument.
Des puces, en fait.
Tout à fait. Sur 2004, au 6e rang mondial. Donc, c'est une grande société de semi-conducteurs. Qui intervient où, le semi-conducteur? Typiquement, quand on parle de puces, il faut savoir que c'est la vie de tous les jours. C'est-à-dire, en fait, l'appareil que tu tiens, il y en a.
On DAT, là?
Voilà, bien sûr. Il y en a. Il y en a dans ta voiture, dans les DVD, il y en a dans les MP3, il y en a dans la télé, il y en a dans ton téléphone portable. C'est-à-dire, en fait, c'est la vie de tous les jours. Donc, il faut savoir que, les puces, c'est notre vie de tous les jours. C'est-à-dire, en fait, partout. Tu te lèves le matin, le premier appareil que tu mets en route a vraisemblablement une puce. Ta machine à laver en a. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été en fait 10 années de croissance, mais 10 années en fait d'investissement, de recherche et développement qui ont été extrêmement importantes, extrêmement fructueuses également. Où on a embauché en fait énormément d'ingénieurs qui sortaient de l'école d'ingénieurs ou des universités françaises extrêmement compétents. L'année dernière en fait notre société ST Microelectronics annonçait 601 millions de dollars de bénéfices et subitement donc sur le premier trimestre de cette année ils ont annoncé des pertes. Toujours est-il que les tendances actuelles, je veux dire c'est pas un mystère, sont à la délocalisation et cette délocalisation nous touche de plein fouet depuis plusieurs années. C'est-à-dire que c'est supprimé 3000 emplois en Europe, en Asie. Et une fois ces 3000 emplois donc supprimés, c'est en créer 1500 en Asie. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire, bon, vous coûtez trop cher ici, on a besoin de main-d'œuvre, mais on en prend 1500 en Asie, notamment en Chine.
Donc c'est ce qu'on appelle la délocalisation.
Brutale. L'indice est bon, eh bien, on conserve les emplois. L'indice est mauvais, eh bien, on commence effectivement à décaisser comme ils le font aujourd'hui.
Décaisser, empaqueter, impacter, des mots nouveaux qui arrivent et qui disent tout. Hein, c'est très violent. Alors voilà, ça c'est le bac plus 5 plus 8, c'est l'ingénieur de high-tech, c'est le chercheur dans ce polygone scientifique, dans ce pôle de compétitivité. Toute l'élite, la crème de la classe politique française a fait le voyage de Grenoble pour saluer cette entreprise bénéficiant de subventions publiques comme vraiment ça le rempart aux délocalisations. Bien sûr que ceux qui n'ont pas de diplôme, eh bien effectivement, sont hélas touchés, frappés par les délocalisations, la globalisation, etc. Mais alors là, en ce qui concerne évidemment le high-tech, là, évidemment, les autres savent pas faire et les Français savent faire. Les choses changent. On vient de parler avec cet ingénieur, cet auditeur, un col blanc, mais il y a aussi l'école bleue, c'est-à-dire ceux qui, à Crolles, non loin de là, une vingtaine de kilomètres, font le travail manuel. Il y a les cerveaux et les boyaux.
Bonjour.
Salut.
Ça va bien?
Ouais.
Moi, je suis Rico Henry, je suis délégué syndical CGT. Et depuis 96, je travaille à Crolles, à ST Microelectronics, enfin, en salle blanche, opérateur en traitement thermique.
Et alors, qu'est-ce qui m'amène ici? Pourquoi des salariés syndiqués, mais pas uniquement en tant que syndiqués, des cadres comme des opérateurs, voilà.
Ouvriers avant, opérateurs aujourd'hui.
Voilà, maintenant on dit plus ouvriers, surtout quand c'est la haute technologie. Voilà. Des cadres comme des ouvriers disent attention, intéressez-vous à nous.
Parce qu'aujourd'hui, ST va licencier. Donc aujourd'hui, il y aurait 1000 suppressions d'emplois en France. Jusqu'à présent, c'était une boîte, on peut dire, où tout le monde se trouvait en sécurité. Puis,
parce que c'était une boîte qui marche.
Qui marchait, qui faisait des bénéfices, qui en fait toujours. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet. Parce que c'était vraiment une entreprise où on pensait que c'était l'écrin et que tout peut arriver, mais pas à Crolles.
Ouais. Ça y est, c'est ce que tu mettais dans le courrier qui nous a amené ici. c'est banal, ça arrive tout le temps, ça arrive de plus en plus, mais cette fois, c'est sur nous que ça tombe.
Exact. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu comme la maladie, on se dit, c'est toujours les autres que ça touchera, jamais moi. Et en plus, bon, bah, renforcé par le fait que on appartenait à une industrie de pointe, que c'était un milieu concurrentiel, que bon, il y avait un avenir serein et bleu et que tout allait bien se passer. Donc, le choc a été encore plus dur.
Conforté par toute la venue des politiques. Parce que c'est vrai que moi je me rappelle toutes les personnes qui sont venues.
Qui est venu justement célébrer?
C'est la vitrine de tous des politiques. En premier est venu Jacques Chirac en 2002. Après est venu Sarkozy, Nicolas. Jospin est passé et ensuite et dernièrement est venu David Jean.
David Jean qui était à l'époque encore ministre.
De l'industrie. Ouais. Donc c'était vraiment la vitrine des politiques, quoi. Ben, ils ont dit à l'époque que c'était la vitrine, c'était l'avenir, ça allait créer des emplois, c'était le projet de pôle de compétitivité. Ouais. Ou ailleurs, on délocalisait, les autres entreprises délocalisées, fermaient. ST, au contraire, ne fermait pas, ne délocalisait pas, et au contraire, créait de l'emploi.
Et c'est moins de 2 mois après que David Jean ait dit « Vous êtes l'exemple de ce qu'il n'y a pas de délocalisation », le verdict tombe, précisé hier, 1000 emplois.
Oui. Qui vont partir en Asie, oui, parce que justement pour cette politique de réduction des coûts, on fait moins cher ailleurs, malgré l'expérience qu'on a ici, les qualifications, on délocalise. Donc moi je me rappelle toutes les personnes quand le président Chirac est venu à Crolles, tout le monde était fier, tout le monde était dehors à l'accueillir. Ça confortait dans cet esprit de dire nous on est une entreprise de pointe, on est à l'abri.
Comme il était allé à Metal Europe.
Comme il était allé, mais t'es à l'Europe. J'avais oublié.
Oui, bien sûr. Sylvette.
Bonjour. Yves. Là, c'est surprenant. Je pensais arriver dans une usine tendue ou sur un site de recherche où on prévoit des délocalisations, des suppressions d'emplois. Et là, il y a un décalage complet. Les salariés sont en train de pousser la chansonnette. Un karaoké.
Ça n'empêche pas de vivre.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe?
En fait, c'était...
Approchez-vous.
Au mois de juin, le CE organise toujours des... autour de la fête de la musique, des petits concerts. Et donc, il n'a pas annulé sa prestation. Mais il la termine juste à 13h pour qu'on commence notre assemblée.
Voilà, what a wonderful world, that's fini.
Wonderful world.
Et maintenant, c'est maintenant que vous allez parler de la globalisation.
Voilà,
wonderful world. C'est pas de l'humour, hein, what a wonderful world, hein, pour le coup, là.
Et maintenant, ça y est, c'est l'AG qui commence. Je précise qu'on est de l'autre côté du grillage parce que la direction n'a pas souhaité pour l'instant que nous rentrions.
Wonderful world, what a wonderful world. La fête de la musique, le slow de l'entreprise, un petit peu gâché par, même tout à fait gâché par cette annonce d'un plan de licenciement, environ 1000, entre 1000 et 3000 emplois, on va nous donner des précisions, vont être supprimés dans cette entreprise de pointe, ce pôle de compétitivité. Et où le plus terrifiant là-dedans, c'est que les études, les expériences accumulées, les qualifications, tout ça n'a aucune espèce de valeur, n'a plus de valeur, n'a plus d'importance. Si la bourse le décide, on vire les gens sans aucune espèce de ménagement. On s'y habituait. Là, c'est quand même un pas de plus. Donc on attend l'issue de cette assemblée générale des salariés de l'entreprise.
Alors, après l'AG de crise qui est organisée dans le site de Grenoble, les salariés sortent.
Les salariés sortent, ils se mettent devant le rond-point pour faire un mouvement de protestation.
Il y a du monde quand même.
À peu près 200 personnes,
non ? Non ! Aux suppressions d'emploi ! Non ! Aux suppressions d'emploi ! Victime de la bourse !
Non ! Merci !
Ah, moi je fais du sup pour CAO, ça fait 31 ans au mois d'août que je suis dans le métier. Donc j'ai pas mal navigué, ça fait quand même 20 ans de ST.
Vous gagnez combien ?
Je dois être en brut à 4700 euros, quelque chose comme ça. Moi, j'ai pas foncièrement à me plaindre.
Pour vous, en fait, si je comprends bien, vous, cette boîte, vous la connaissez, ce boulot, vous le connaissez. Vous y avez trouvé
Trouvé énormément de plaisir. Moi, j'ai trouvé énormément de plaisir.
Faut que je vous décrive quand même pour la radio, parce que on est dans une boîte, c'est vraiment Silicon Valley, quoi. C'est la chemise à fleurs hawaïenne, les lunettes de soleil et les tongs.
Oui, c'est peut-être un petit peu atypique à la société, mais bon, c'est vrai que j'ai toujours été comme ça. Je pense que tout le monde me reconnaîtra avec cette description.
Ah ouais. Et vous avez toujours marché, en fait.
Et là, tout d'un coup,
ça sonne comme un petit une fêlure, carrément une cassure.
Parce que bon, des fêlures, il a pu y en avoir. C'est vrai que la société, il faut la faire vivre. Il faut, bon, les marchés aussi existent. Mais là, d'un seul coup, c'est une rupture complète. Disons que c'est plus l'industrie, c'est l'argent maintenant. C'est faire de l'argent avec tout et n'importe quoi.
Vous avez vu votre boulot changer avec ces critères-là ?
Le travail par lui-même est toujours le même. On peut toujours y trouver du plaisir. Mon travail, j'y trouve toujours du plaisir. Mais c'est l'impératif financier. Il n'y a plus que l'impératif financier maintenant. On arrive, on va vous ouvrir des postes. Deux semaines après, on va les fermer. Trois jours après, on va rouvrir des postes. On va les refermer. On va tout ça pour des patrons actionnaires qui sont partie prenante dans la bourse, donc qui ne pensent qu'à leur argent et non pas à la vie de la société. C'est désespérant. Donc qu'est-ce qu'on peut faire contre ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire contre ces gens qui ne pensent qu'à l'argent ? C'est vraiment... On prend plus compte des gens, on tient plus compte des gens. Si ça marche pas ici, ça marchera ailleurs, on ira presser le citron ailleurs. Et c'est à peu près ce qui se passe partout maintenant.
Est-ce que les gens dans cette boîte, vos collègues, quand il y avait des histoires de délocalisation, de fermeture de sites pour reconversion, est-ce qu'ils en parlaient à la machine à café ?
Non, à peine. Les gens ici se sentaient pas concernés, c'est bien.
Métal Europe, Lu, je sais pas quoi, Goodyear, Michelin.
Non, c'était autre chose. C'était pas nous. Nous, on pouvait pas être impactés. On est une industrie de pointe et c'est moderne chez nous. On pouvait pas être impactés. Et là, c'est vraiment la première fois où on voit autant de monde parce que maintenant, ils se sentent concernés. Il y a des chiffres qui sont annoncés. Ils se sentent concernés. C'est un peu tard. C'était avant qu'il fallait se sentir concerné, il me semble. C'était avant.
Coup dur également pour les employés de la société ST Microelectronics. La fermeture de l'usine de Rennes a été confirmée hier en comité central d'entreprise. Quelques 150 salariés venus de Bretagne ont manifesté devant le siège social du groupe franco-italien à Montrouge. Parmi eux, Jocelyne, qui travaille chez ST Microelectronics depuis 31 ans. Elle est au micro de Sandrine Prioul.
C'était pour moi le dernier combat que je pouvais mener personnel. Tout ce que j'ai fait avant, manif et tout, c'était pas suffisant pour moi. Il fallait que j'aille au fond de moi-même et que je fasse cette action-là. On pense qu'en faisant ça, on va peut-être toucher le cœur des dirigeants. Parce qu'on est encore des êtres humains, faut pas l'oublier. Là, on a l'impression qu'on est des machines. Je suis rentrée, j'avais 17 ans. Ça fait partie de ma vie, quoi. Moi, peut-être que j'en suis arrivée là parce que ça nous est déjà arrivé dans notre famille, quoi. J'ai eu mon mari qui a eu 7 ans de chômage. Je l'ai vécu très, très mal. C'est très dur à vivre. Les gens nous tournent le dos. On n'est plus bon à rien. Et ça, moi, je veux pas le revivre. Je veux partir la tête haute de la ST.
Plus bon à rien, la tête haute. Ces mots-là, on les entend dans nos reportages depuis presque 15 ans maintenant. Mais sauf que là, je le répète encore, c'est un pas de plus franchi. Et bien évidemment, les salariés de cette entreprise prestigieuse qui fait appel à des gens très diplômés, c'était pas l'endroit où on pensait que ça arriverait un jour. Or, ça arrive.
Je suis un salarié du site, donc cadre qualifié de supérieur. J'appartiens à aucun syndicat, je n'ai pas de mouvement politique particulier. Et je n'ai connu comme unique employeur ST depuis ces 6 dernières années.
C'est-à-dire qu'ils vous ont embauché, diplômé, tout
voilà,
frais et moulu.
Voilà, j'ai fait mon stage. Depuis que je suis chez ST, je travaille surtout sur les aspects recherche et développement. Donc sur tout ce qui est...
Pour un non-comprenant.
Pour un non-comprenant, sur l'architecture des systèmes et comment amener plus d'aspects logiciels, donc plus de flexibilité sur les produits à venir en fait.
Est-ce que vous voyez à votre échelle des collègues, des chercheurs, des cadres qui se disent, pour la première fois, si ça se trouve, c'est moi qui vais être délocalisé?
J'en ai plus personnellement, j'en ai plus conscience récemment, enfin suite à cette annonce-là. C'est vrai que les autres annonces de délocalisation, la fermeture de Rennes ou autres, je me suis senti moins touché. Là, en effet, avec une annonce de 10% en France, 1 sur 10, on peut pas ne pas se sentir touché. Donc, en effet, il y a beaucoup de personnes dans la boîte qui se sont dit « Pourquoi pas moi ? Comment est-ce que ça va se faire ?» Donc là, en effet, les gens commencent à prendre conscience, mais je dirais que l'ingénieur est pas souvent, on va dire, rebelle dans sa manière de faire. Et quand, parfois, la direction nous explique bah, « Voilà, le problème, c'est un coût salarial trop fort. »
C'est vous.
C'est nous. Il y a des gens qui prennent pas, enfin qui à la limite ne vont pas essayer de se rebeller ou pas se remettre en question en disant bon bah ok j'ai fait mon possible et bah, c'est peut-être normal ce qui m'arrive.
Vous êtes jeune, vous êtes qualifié, vous avez maintenant une expérience professionnelle sérieuse. Comment vous voyez votre avenir?
La question de l'avenir, elle s'inscrit plus dans le cadre général. C'est plus le fait de voir que bah, mon épouse vient de se faire licencier. Elle est aussi un cadre supérieur. Elle s'est faite licencier. Ils ont viré 75% du personnel. Donc une société américaine qui, eux aussi, pour des problèmes de gestion de projet, bah, ils ont dégagé 75% du personnel.
Elle a eu des indemnités.
Voilà, donc elle a pu négocier des indemnités de départ. Maintenant, pour trouver des choses intéressantes en termes d'emploi, les grandes sociétés comme Schneider ou HP, à l'heure actuelle, annoncent des licenciements. Là, soit il y a trop d'ingénieurs sur le marché, ou alors qu'on nous propose des ingénieurs en Inde.
Pour bosser avec vous?
Voilà. Quand un projet a besoin de ressources, il n'est pas possible d'embaucher en Europe. Donc, ce qui est possible de faire, c'est, voilà, on vous donne 5 ingénieurs indiens.
Vous l'avez dit comme ça?
Voilà, non, mais tout à fait. Donc, on vous donne 5 ingénieurs indiens au prix d'un ingénieur français.
Vous en mettez combien?
Alors, même les récentes annonces au niveau de management, même, se posent dans ces termes. C'est maintenant, vous avez des enveloppes de budget, vous décidez de comment vous souhaitez les allouer. Donc, sachant qu'un ingénieur français, pour le prix d'un ingénieur français, vous avez 4 ingénieurs indiens, vous utilisez l'enveloppe comme vous voulez. Quoi. Donc forcément, les gens ont beaucoup plus tendance à embaucher en Inde.
Vous avez bien compris ce qu'on vient de nous dire. Vous avez bien compris ce qu'on vient de nous dire. C'est-à-dire que ce jeune cadre dans cette entreprise, on lui dit, bon, ben vous faites comme vous voulez. Il y a tel programme à exécuter. Vous avez un budget et vous choisissez ou bien vous prenez un ingénieur français à tel tarif ou bien, puisque pour le même tarif, vous pouvez avoir 5 ingénieurs indiens, ben vous choisissez. Voilà. Et je sais pas. Si vous vous mettez bien à la place de ce gars-là, le soir, quand il rentre à la maison, il se dit « Qu'est-ce que je fais ?» Eh bien, voilà. C'est vous qui concluez. Hein. Moi, je vous laisse avec cette question-là. Quelqu'un qui répond, non pas forcément à cette question-là, mais qui est engagé dans ce processus, donc dans cette entreprise, c'est Maurice. Maurice qui est responsable syndical de la CGC. Un syndicat, dit-il, ouvert, mais pas un syndicat patronal. Et même ce syndicat-là commence à trouver que le monde boursier est un petit peu trop exigeant.
Donc, Maurice Gliattini, je suis délégué syndical CFE-CGC de ST Microélectronique, site de Grenoble. Nous sommes un syndicat ouvert à toutes les discussions. On représente...
On rappelle que c'est le syndicat des cadres.
Le syndicat des cadres et de l'encadrement. Et donc, je pense que nous sommes capables d'analyser des situations, de les comprendre, de les discuter, voire de les remettre en cause. Je veux dire, ça ne veut pas dire que syndicat de cadres, c'est le syndicat patronal, hein, pas conforme. Mais...
Alors, expliquez-nous la situation qu'il y a en ce moment dans la boîte. Il y a la menace qui pèse, mais on ne sait pas quelle menace et quelle forme elle va prendre, si j'ai bien compris.
Tout à fait. On a des demandes faites par le monde boursier de faire des réajustements de coûts de fonctionnement sur la zone euro, dont la direction répond par des suppressions de postes en Europe.
Revenons deux secondes sur ce que vous disiez, le présupposé de base, c'est-à-dire les milieux boursiers qui jugent que le titre est pas assez rentable ou qu'il y a un mode pas assez de dividendes.
Ne rapporte pas assez de dividendes. Ben la grosse problématique, j'allais dire, c'est que tout le monde a cru au Père Noël avec l'an 2000. C'est qu'on a eu un boom extraordinaire en l'an 2000. Et à l'époque, on a cru que, comme toujours, dès qu'on atteignait une barre, comme tous les sportifs, le lendemain, on l'a repassé encore. C'est-à-dire que ST a fait plusieurs milliards de bénéfices. Et aujourd'hui, il est retombé comme toutes les autres sociétés. à des logiques de rentabilité, j'allais dire normale entre guillemets, puisque l'année passée on a fait 600 millions de bénéfices pour 8 milliards de chiffre d'affaires. Donc il y a beaucoup de sociétés qui sauteraient au plafond de joie avec de tels résultats. Et aujourd'hui donc le boursier veut continuer à croire au miracle de l'an 2000, ce qui effectivement met une pression. Oui. Voilà. Donc et nous notre analyse justement, c'est que si vous avez vu la réaction de la bourse, elle a explosé pendant un quart d'heure à l'annonce des 3000 suppressions de postes, puisque pof, dès qu'on annonce des suppressions de postes d'emploi, la bourse elle réagit positivement. Et ensuite quand ils ont fait l'analyse, pof, le soufflet est retombé. En économique, les 95 millions de dollars annoncés par la direction sur ce plan,
c'est le plan d'économie, ça doit rapporter
95 millions de dollars par an d'économie en supprimant ces 3000 postes hors Asie, dont 1000 en France. Et nous avons calculé que 10 centimes de variation de parité euro-dollar, donc en défaveur du dollar aujourd'hui, ça représenterait à peu près 100 millions de dollars pareil, d'économie pour rester. Donc voilà, 10 centimes d'euros, 3000 emplois, ça parle.
Ça parle, effectivement. Le taux de l'euro par rapport au dollar, c'est des choses un peu vagues quand même. Et là, tout d'un coup, ça fait sens, comme on dit. Ça fait sens aussi pour ces cadres, Stéphane et Bruno, qui eux aussi vivent même très bien, jusque-là, sans savoir qui sera le maillon faible.
Stéphane, je suis ingénieur support marketing en fait sur les produits ADSL.
Bruno, dans la recherche et développement.
Donc vous êtes des cadres, vous êtes des ingénieurs. Je peux vous demander les fourchettes de salaire dans lesquelles vous êtes, vous?
En net mensuel, je vais toucher à peu près 2600 euros.
Ouais.
Pour ma part, je suis au-dessus à peu près de 50%.
Jusqu'à maintenant, j'imagine que ni l'un ni l'autre, vous n'aviez envisagé la menace d'être délocalisé. C'est-à-dire que votre poste soit délocalisé?
Non, c'était pas en ces termes-là, c'était plus de la blague générale. Bon, de toute façon, dans 20 ans, on sera plus là, tout sera en Asie, quoi. Plus des blagues de ce type-là.
C'est des choses un peu qu'on voyait un peu loin. Là, on sent que c'est une menace qui se rapproche de plus en plus. Et surtout, ce qui est important, on sent qu'il y a une logique derrière qui fait qu'on a l'impression qu'on veut se passer d'un certain nombre de personnes. Sur n'importe quel poste, maintenant, on risque de coûter trop cher. Quel que soit le poste.
Avant les précédentes délocalisations, jusqu'il y a très peu de temps, c'était des emplois d'opérateurs, des emplois d'ouvriers qui étaient le plus souvent supprimés. Mais si je comprends bien maintenant, vous vous rendez compte que les cols blancs aussi sont potentiellement visés.
Ce qu'on peut dire, c'est que en fait, à contrario, ceux qui ne seront pas victimes, ce sont ceux qui ont l'argent, qui possèdent le capital. Tout le reste, effectivement, peuvent être victimes sans distinction.
C'est vrai que je pense que la population ici, c'est pas une population qui s'engage assez facilement. C'est vrai que j'ai une éducation plutôt une classe moyenne aisée, hein, relativement aisée même. Et puis il y a aussi en fait, moi, en parlant pour moi, une certaine quelque part, je vais pas dire pudeur, mais je gagne bien ma vie, j'ai un travail intéressant, j'ai pas le droit de me plaindre. Il y avait un petit peu ça aussi quelque part derrière. Et c'est vrai que moi, au début, j'ai pas. Les premiers engagements, je dirais que j'ai eu, c'était par rapport à la réforme des retraites, donc il y a deux ans.
2003
maintenant. Ben, je vois que de plus en plus, en fait, j'ai envie de protester quelque part pour dire que moi, je suis pas d'accord et que j'ai pas envie de ça et que c'est pas parce que j'ai une position privilégiée par un certain côté, parce que j'ai parfaitement conscience d'être quand même privilégié. Déjà, j'ai un travail bien payé. Mais c'est pas parce que je suis privilégié que j'ai pas le droit de dire ce que je pense, en fait. À savoir que je suis pas d'accord avec une logique de profit à court terme, que la logique peut être différente, que ça peut être une logique de projet industriel qui va générer de l'emploi pour pas mal de gens, et que quand on donne que la direction donne des informations au fur et à mesure en essayant de par une caresse, tantôt c'est le bâton, tantôt c'est la carotte, il faut être vigilant, en fait.
Donc il y a un peu de réveil politique là-dedans, si je comprends bien.
On peut le voir comme ça, oui. C'est un peu de réveil politique, c'est peut-être un peu tardif, mais je vais avoir 32 ans. Mais ouais, un certain réveil politique, ouais. Prise de conscience, d'essayer d'aller chercher de l'information, de pas nécessairement croire ce qu'on nous dit. Je pense que de toute façon, tout système, s'il n'y a pas des garde-fous, des contre-pouvoirs, il va dans le mur. Donc il faut trouver des bras de levier pour faire que ce soit pas uniquement le marché qui dicte la loi. Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut pas faire autrement?
Vous êtes le maillon faible? Au revoir. Avec 6 voix contre vous, Christophe, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Raphaël, avec 3 voix contre vous, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Avec 4 voix contre vous, Olivia, vous êtes le maillon faible.
Au revoir.
Pouvoir public, des sous pour l'emploi.
Épée de Damoclès, personne n'est à l'abri. Combien de fois ces expressions sont employées, ont été employées dans cet univers impitoyable de la délocalisation qui se généralise, on le voit, à ces entreprises de pointe, ces pôles de compétitivité. Ce qu'on nous disait, c'est que c'était la vitrine, toute l'élite politique, Chirac, Sarkozy, Jospin, et encore de Bédjan qui est passé il y a 2 mois dans cette entreprise pour s'en féliciter, pour montrer ce qu'était vraiment la réplique au risque de la globalisation. C'était ça, et bien voilà que maintenant la mondialisation libérale, parce que c'est ça dont il s'agit, frappe ceux qui pensaient vraiment ne jamais être frappés. Alors là, on va à Kroll. C'est l'autre partie de l'entreprise. À Kroll, c'est les opérateurs, comme on disait tout à l'heure, euphémisme pour dire les ouvriers. Et là, on rencontre avec Guy Vanctil, on rencontre Henri.
Voilà, alors nous voilà devant le bijou, comme tu le disais.
Le bijou de ST Microelectronics.
C'est un paysage magnifique, déjà, faut dire. Ça n'a rien à voir, pour le coup, avec la Silicon Valley californienne, où c'est que du sable. Là, c'est des collines qui ont doigt, tout vert.
La magnifique chaîne de Beldon en face, aujourd'hui recouverte de nuages.
Mais on voit encore, il y a la neige en haut. Et de l'autre côté, alors là, c'est superbe.
C'est la Chartreuse, avec la dent de Kroll.
La dent de Kroll, qui est une espèce d'énorme promontoire rocheux et qui sort un peu comme...
Qui ressemble à une molaire.
Ouais. Et derrière, voilà l'énorme complexe
de ST Microelectronics, avec ici Kroll 1 et puis là Kroll 2, le gros bâtiment.
Et combien de personnes sont employées ici?
Donc 2500 à Kroll et 830 à Kroll 2. Plus on a 150 personnes de Philips, plus 100 personnes de Friskel, anciennement Motorola.
Combien ont été investis pour créer ce centre de technologie?
Alors, je sais qu'aujourd'hui, la région et l'État donnent à peu près 40 millions d'euros par an. Tous les bâtiments qui sont ici, là, Kroll 2, c'est-à-dire le premier bâtiment, le même qu'il y a derrière, on ne voit pas trop bien d'ici, et ce bâtiment-ci, c'est l'État et la région qui ont financé. Et aujourd'hui, ST paye une location mensuellement.
Et quelle est l'ambiance alors?
Très pesante aujourd'hui. Bon, ça a toujours été, mais encore plus aujourd'hui, quoi. On a une discussion très optimiste de la part des hiérarchiques. Et d'un autre côté, on essaye d'amener les gens à protester contre ces licenciements.
Parce que la direction fait tout sauf jeter de l'huile sur le feu.
Voilà, mais pour eux, c'est des suppressions de postes, pas d'emplois. Donc ils espèrent que, à peu près, bon, je viens de discuter avec un hiérarchique, ils espèrent que 700 personnes partent d'eux-mêmes, départ volontaire. La banque, pour eux, c'est pas des licenciements, c'est un départ volontaire.
C'est pas des chômeurs.
Voilà, ils vont faire une formation qui va durer un an, mais pas plus. Comme je dis, mais après un an, qu'est-ce qui va se passer?
Angoisse, ceux qui veulent y croire, ceux qui s'angoissent plus qu'ils ne devraient, ceux qui... un climat absolument pourri. Qui a gagné cette entreprise? Alors, on dit oui, mais il faut être mobile, il faut se déplacer, on vous fait des offres. Voilà un salarié de cette entreprise qui a déjà été délocalisé.
Moi, je suis technicien d'opération à ST Kroll depuis 3 ans et demi maintenant, et puis j'arrive de ST Rennes, donc, suite à la fermeture.
Et vous, alors que plane aujourd'hui une menace de délocalisation pour des salariés encore pas déterminés, des salariés du groupe ST Microelectronics vers l'Asie, vous avez déjà été délocalisé une première fois?
Oui. Ils ont transféré la production à Singapour. Parce que suite à l'annonce de la fermeture du site de Rennes, on nous a proposé de venir à Kroll, qui à l'époque, disait-on, était un site qui recherchait justement de la main d'œuvre pour continuer à développer son activité. On est venu ici confiant, en fait, quoi, sur l'avenir. On se rend compte aujourd'hui que la même chose se reproduit, en fait. Donc, nous, on a bougé, comme d'autres, pour la sécurité de l'emploi. Hein, c'est juste pour pas être au chômage qu'on a bougé. Et puis là, on se rend compte que je vais me retrouver dans la situation dans laquelle j'étais il y a 5 ans, sauf que beaucoup ont investi ici parce que l'immobilier est pas au même prix qu'en Bretagne. Et donc 5 ans après, on risque d'être dans une situation peut-être plus critique encore que si j'avais attendu mon licenciement à Rennes, peut-être, quoi.
Quelles images sont restées chez les salariés qui ont suivi la mobilisation qu'il y avait eu à Rennes et la précédente délocalisation de ST Microelectronics?
Les images de Rennes? Bah, tous les nombreux déplacements à Paris, devant des immeubles où personne n'ouvre la fenêtre pour répondre. Enfin, c'est ça, quoi. C'est le non-dialogue, en fait, quoi. Ce sera comme ça, et voilà. Et les gens vont se battre et faire tout ce qu'ils voulaient. C'est ça, plus les CRS qui ont débarqué sur le site de Rennes avec des camions pour démonter les machines. Parce que les machines qui étaient sur le site de Rennes sont parties à Singapour après, quoi. Donc les CRS sont venus pour accompagner les gens qui allaient démonter ces machines-là pour qu'ils puissent les démonter en sécurité, en fait. Mm. Donc tout ça, en fait, c'est un truc, c'est assez violent, finalement, une délocalisation, quoi. C'est les CRS dans la tête, et puis on t'enlève tout, puis tu te tais, et puis voilà. Une sorte de fatalité, on peut rien faire, c'est le monde qui est comme ça, et c'est pas bien, mais on n'y peut rien, quoi. Les gens ont tellement peur de l'avenir qu'au lieu de s'engager, ils essaient de se préparer un petit truc chacun chez soi, quoi. Mm. Et donc bah, c'est tout bénéf aussi pour l'entreprise, qui du coup a pas tellement d'opposants à sa politique, quoi. Bah, en fait, on comprend plus tellement dans quel monde on évolue, quoi. Moi, je travaille, j'ai un salaire, je me débrouille avec, on se débrouille avec nos salaires respectifs avec ma femme, mais la macroéconomie et toutes ces choses-là, on n'y comprend plus rien, quoi. On est manipulé par eux, on est moins important que des machines, parce que, bah voilà, quoi. On est un outil de production parmi tant d'autres, et puis c'est tout, quoi. Le fait qu'on parle, qu'on vote, ça n'a pas tellement d'importance pour les gens au niveau économique, finalement, quoi. Et quand on parle d'ultra-libéralisme ou du simple libéralisme, ça fait plutôt peur qu'autre chose, ce mot-là, quoi, parce que on se rend compte qu'on est une sorte de monnaie d'échange, quoi. Voilà, quoi.
Voilà, merci à tous, merci à Richard, Henri, Marc, Maurice, Mariano, Pierre, Stéphane, Cyril, François Brotte, Catherine Charvet, France Bleu Isère, et Laurent Gallien, France Bleu Isère. Merci à tous. À signaler ce week-end le 25 et 26 juin à Guéret, rencontre des collectifs pour la défense et le développement des services publics. Tous les renseignements sont sur le site www.reseaucitoyen.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Les impactés, c'était un reportage de Guy Ventil. Technique aujourd'hui, Sophie Moreno et Patrick Henry. L'équipe de là-bas si j'y suis, c'est Antoine Chao, Yann Chouquet, Pascal Pascariello et Christophe Humbert. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Il faut pas oublier Raphaël Moutarde. Le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com. Et dans 1 minute 40 de réclame, évidemment, vous retrouvez Frédéric Bonneau pour Charivari. Nous, on se retrouve lundi à 17h pour là-bas si j'y suis, la dernière semaine de là-bas si j'y suis pour cette saison. Bonne fin de semaine à tous. Salut.
Avec trois voix contre vous, Daniel. Vous êtes le maillon faible. Au revoir.